Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la seconde épître de Pierre, au chapitre 1er. Nous regarderons à quelques versets dans ce premier chapitre, mais juste pour remettre un peu les choses aussi dans le contexte hein, par rapport à cette épître, on voit hein, à la lecture de, que ce soit la première ou la seconde épître de Pierre, on voit chez Pierre ce cœur de pasteur. De quelqu'un qui est soucieux hein, du bien spirituel hein, des chrétiens. Pour moi, je vois la connexion hein, avec ce que le Seigneur lui avait dit après sa résurrection, hein, paix mes brebis, hein, par trois fois. On voit aussi que Pierre était aussi quelqu'un qui avait à cœur de défendre la saine doctrine. Hein, souvent, on regarde à l'apôtre Paul comme voilà le grand défenseur de la doctrine, etc. Mais ces deux épîtres nous montrent que Pierre avait ce cœur de pasteur, mais également hein, de docteur, d'enseignant, hein, de défense, d'apologiste de la doctrine concernant notre salut et d'autres choses encore. Cette deuxième lettre, nous voyons que Pierre va avertir les chrétiens quant à un danger qui venait de l'extérieur, qui s'introduisait dans les églises. Dans la première épître, il parle bon des épreuves et des persécutions qui sont présentes, mais dans cette seconde épître, il signale un danger. Il signale un danger par rapport à des personnes qui se faisaient passer pour des chrétiens, pour des enseignants, et qui finissaient par détourner les chrétiens de la vérité. Cette épître, qui on estime qu'elle a été écrite vers 64-67 après Jésus-Christ, juste quelques temps après la première, hein, pas longtemps après, mais elle a vraiment cette perspective différente hein, par rapport à la première lettre qu'il a adressée à ses chrétiens. On voit que Pierre va vraiment encourager les chrétiens à étudier la parole de Dieu, encourager les chrétiens à continuer hein, dans leur marche avec le Seigneur, mais vraiment, il va les stimuler, les encourager à la croissance spirituelle. Si on regarde bien bon, à cette épître, et même vous pouvez regarder juste à la fin, parce qu'à la fin, il répète un peu cette même encouragement pour les chrétiens, cette volonté pour eux. Chapitre 3 et verset 17, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Il y a quelque temps de cela, j'avais déjà abordé la question de l'excellence spirituelle que nous devons avoir dans notre vie. Et cette excellence spirituelle, elle va pas pouvoir être atteinte si, eh bien, nous ne sommes pas engagés dans la poursuite de notre croissance spirituelle. Il y a encore plus longtemps que cela, j'avais apporté aussi une série de messages sur la doctrine de l'Église, notamment en me basant sur les passages d'Éphésiens 4. Mais là aussi, dans Éphésiens 4, l'idée, c'est que pour nous, hein, l'Église, c'est un corps vivant, mais c'est là où nous sommes appelés, eh bien, à nous édifier. Là où nous sommes appelés, eh bien, à nous perfectionner hein, dans notre foi, c'est là où, par l'enseignement de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu, ben, c'est avec cela que, ben, finalement, les chrétiens ne sont plus des enfants qui sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire que nous sommes appelés à avoir une ferme conviction concernant les doctrines et que on ne soit pas des girouettes spirituelles, des girouettes même au point de vue doctrinal. C'est-à-dire que ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous soyons fermes dans notre foi et que nous croissions hein, à tous égards. Et c'est le but de Dieu à travers l'Église pour chaque croyant. Et ce matin, donc, on va regarder, bon, on va lire les deux premiers versets, mais c'est surtout les versets 3 et 4 que nous allons regarder ce matin. Mais dès le verset premier, nous lisons Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je crois que c'est important pour chaque chrétien d'être, dans sa vie spirituelle, résolu à grandir, d'être ferme dans notre foi, mais de rechercher continuellement à grandir spirituellement et ici, à surtout croître dans la piété. L'apôtre Pierre veut ici rappeler à ses lecteurs que Dieu nous a accordé en Christ une grâce extraordinaire, mais une grâce pleinement efficace. Une grâce à travers le salut, une grâce aussi dans notre vie chrétienne. Et c'est en nous appuyant sur cette grâce efficace de la part de Dieu que, justement, nous pourrons tenir ferme, que nous pourrons croître dans la piété et que nous aurons ce discernement vis-à-vis de tout enseignement qui dévie de la parole de Dieu ou même toute pratique qui ne sied pas à un chrétien. La raison pour nous de vraiment nous focaliser sur cette croissance spirituelle, sur la connaissance de la doctrine et d'être ferme là-dessus, c'est, oui, avant tout pour honorer et glorifier Dieu, mais il faut comprendre aussi que c'est pour notre propre bénéfice spirituel. Et donc, pour parvenir à grandir dans notre foi, et plus particulièrement ici, dans la piété, eh bien, il faut qu'on prenne conscience que Dieu a vraiment pourvu toute sa puissance pour que nous puissions atteindre cet objectif-là. La puissance de Christ est celle qui est soulignée ici dans ce passage. On parle ici de sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alors, qu'est-ce qui fait défaut ? Qu'est-ce qui fait défaut dans la vie de nombreux chrétiens pour que, il y a des moments où on stagne, des moments où même on chute, ou des moments vraiment où, on a pu ce désir de vouloir progresser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, d'acheter un appareil électrique, peut-être un jouet électronique, dans le but de l'offrir à quelqu'un, et vous attendiez de voir la réaction de cette personne en ouvrant son cadeau, et peut-être vous aviez cette joie de pouvoir lui faire plaisir, et de voir la joie sur le visage de cet enfant qui, par exemple, ouvre son cadeau, là, et il voit l'appareil, et waouh ! Et là, on est tellement content avec lui, on sait que ça lui fait plaisir. Et puis, une fois l'emballage ouvert, cette joie, elle s'estompe. Elle s'estompe parce qu'on se rend compte qu'elle ne peut pas l'utiliser. Elle ne peut pas l'utiliser parce que quand on a acheté l'appareil, on n'a pas prêté attention à ce cadre qu'il y a derrière, qui a un petit avertissement qui dit « pile non incluse ». OK ? Et on se dit « mince, il faut des piles ». Alors peut-être on cherche partout des piles dans les tiroirs, etc. Et puis peut-être on trouve, mais c'est pas la bonne taille. Peut-être on en trouve, mais bon, elles sont déchargées, etc. Et là, ça ruine un peu tout, n'est-ce pas ? Parce que maintenant, il va falloir attendre que le magasin ouvre pour aller chercher les piles, pour que l'enfant puisse utiliser ce cadeau et en profiter. Frères et sœurs, il faut que nous prenions, que nous rendions compte de cette vérité par rapport à l'œuvre que Dieu fait en nous et ce qu'il a prévu pour nous. Dieu, il n'a pas oublié les piles. Quand il a offert sa grâce en Jésus-Christ, il n'a pas oublié les piles. C'est ce que Pierre nous dit, tout était inclus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ce que nous croyons, c'est-à-dire nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, pour le salut de notre âme, et seulement par ses œuvres et aucune des nôtres, tout ce que nous possédons en tant que croyants sur le plan spirituel ne provient pas de nous-mêmes, de nos propres capacités. Hein, il s'agit d'un don offert par Christ et un don de sa puissance divine pour chacun de ceux qui ont placé leur foi en lui. Ça veut dire que tout ce qui, à nos yeux, nous paraît impossible à accomplir, où on sait que humainement, je connais mes limites, je peux faire des efforts dans ce domaine-là, mais je connais mes limites, je ne vais pas y arriver. Eh bien, Dieu nous dit que sa puissance, elle a été offerte avec le salut. Et cette puissance, c'est ce qui nous permet de ne plus regarder à ces limites que nous avons, mais de regarder à la puissance de Christ pour accomplir ces choses-là. Hein, c'est ce que Dieu avait rappelé, le Seigneur Jésus-Christ avait rappelé à ses disciples qu'aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu tout est possible, n'est-ce pas? Et je crois que quand on regarde au progrès spirituel que Dieu veut voir s'accomplir dans notre vie, chacun d'entre nous, même moi y compris, il y a des choses où on s'est dit, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver. Ça, c'est la mauvaise attitude. La mauvaise attitude, pourquoi? Parce que nous sommes en train de regarder encore une fois à nous-mêmes et à nos capacités, au lieu de regarder à la grâce que Dieu a accordée en Jésus-Christ, le salut. Mais il n'y a pas que le salut. Paul le rappelle également dans son épître aux Éphésiens au chapitre 3 et verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que même ce que nous pourrions imaginer, Dieu peut faire au-delà. C'est-à-dire que les limites que nous voyons, Dieu nous invite à regarder au-delà de cela. Pourquoi? Parce que c'est sa divine puissance, celle de Christ, qui nous a été accordée. Alors comprenez que cette puissance, elle est extraordinaire. Hein, ce n'est pas juste un petite recharge comme ça. Hein, cette puissance de Christ, c'est une puissance divine. C'est cette puissance qui a créé le monde. C'est la même puissance qui a ressuscité Christ. La puissance qui a accompli la régénération dans le cœur du croyant, qui s'est repenti, qui a accepté la grâce de Dieu, qui est devenu une nouvelle création en Christ. C'est cette même puissance qui a agi à ces différents moments qui est à notre disposition pour notre vie chrétienne. J'ai déjà entendu des chrétiens dire: oh, je ne peux pas pardonner. Oh non, je ne vais pas pouvoir aimer cette personne-là. D'autres personnes même dire: oh, je ne vais pas pouvoir faire cela pour le Seigneur, j'en suis pas capable. On a eu plusieurs exemples dans les Écritures de personnes qui se sont senties complètement incapables. Se sentir incapable et se savoir incapable, c'est une chose. Mais de là à dire que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose d'extraordinaire en nous et à travers nous, ça montre un problème. On cite souvent l'exemple de Moïse, que Dieu avait appelé pour diriger son peuple et de l'envoyer devant Pharaon. Et Moïse dit: ah, mais moi, je parle pas bien. Puis très bien, tu vas avoir Aaron avec toi. Et puis, c'est lui qui se chargera de parler. Mais au final, on voit que c'est Moïse qui a parlé. Pourquoi? Parce que Dieu, il agit à travers nous, et même dans ce que nous voyons comme limite, Dieu enlève ses limites. Donc, cette puissance divine, c'est cette puissance qui permet aux chrétiens également d'accomplir ces bonnes œuvres spirituelles auxquelles nous avons été appelés par le Seigneur, et c'est ces œuvres spirituelles qui honorent Dieu. Cette puissance qui vient de Dieu, il faut comprendre que puisqu'elle vient de Dieu, puisque c'est la puissance de Dieu qui est là, c'est une puissance qui est inépuisable. Moi, je sais que avec mes garçons et les différents appareils électriques et électroniques qu'ils ont, on achetait les piles, et les piles se déchargeaient. Ah ben, faut racheter des piles, et elles se déchargeaient. Alors, on s'est dit, on va investir, on va acheter des piles rechargeables. Donc, maintenant, on recharge les piles. Mais il faut toujours les recharger, n'est-ce pas? Mais la puissance que Dieu nous accorde en Christ, C'est une puissance qui est inépuisable parce que c'est la divine puissance de Christ qui est mise à contribution ici. Le terme qui est employé ici dans ce texte grec pour le verbe donner, hein, cette puissance divine que Dieu nous a donnée, eh bien, implique eh bien, que cette puissance qui est accordée aux croyants, c'est une puissance qui est permanente. C'est une puissance qui a été accordée et dont les effets continuent. Donc, c'est cette idée de puissance inépuisable qui a été donnée et qui continue d'être donnée continuellement. Hein, l'idée que Pierre veut vraiment qu'on comprenne et qu'on s'attache à vraiment suivre dans notre vie, c'est que cette puissance qui a accompli notre salut, hein, cette puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie, ben c'est cette même puissance qui est mise à notre disposition, eh bien, pour rendre notre vie conforme à celle de Christ, à la piété. Hein, le mot puissance, je pense beaucoup, vous le savez, mais dans le grec, c'est le mot dynamis, c'est ce terme d'où vient le mot dynamite. La dynamite. Hein, lorsqu'on fait exploser un bâton de dynamite, oui, hein, il y a une explosion hein, qui va semer la destruction, la désolation, et puis tout s'arrête. Mais ici, cette puissance que Pierre mentionne dans ce passage, elle est différente. C'est pas juste une explosion et puis ça s'arrête. C'est une puissance qui continue. C'est une puissance qui est inépuisable. Et elle fonctionne comme une énergie hein, qui est employée pour mouvoir les objets. Hein, pour illustrer cela, peut-être on peut prendre l'exemple d'une voiture. Hein. Une voiture a besoin d'essence pour pouvoir eh bien, avancer, n'est-ce pas? Et cette essence va être employée hein, dans le moteur. Il va y avoir une série hein, d'explosions hein, bien synchronisées et contrôlées hein, qui vont faire mouvoir les pistons, qui vont faire mouvoir les rouages pour pouvoir faire avancer le véhicule. On ne voit pas ces explosions dans le moteur, n'est-ce pas? Nous, on est derrière le volant, on est dans la voiture, on ne prête même pas attention à ce qui se produit dans le moteur. Et pourtant, c'est là. Et l'œuvre que Dieu veut voir dans notre vie s'accomplir, et la puissance qu'il a accordée pour que ça s'accomplisse, cette puissance, elle est là. Elle est toujours présente. On ne va peut-être pas voir les explosions dans le moteur, mais on va finir par voir que c'est quelque chose de réel. Ben, comme la voiture, elle bouge, eh bien, nous allons commencer à grandir spirituellement. Nous allons commencer à changer notre manière de vivre, à changer notre manière de penser et changer même nos objectifs de vie pour que cela corresponde à la volonté de Dieu. Et donc, pour décrire cette même ressource que Dieu nous accorde en Christ, Paul, il utilise ce même terme, dynamis, dans Éphésiens chapitre 1er, versets 19 et 20. Il parle hein, de cette infinie grandeur de sa puissance hein, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Hein, cette puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc cette puissance de la résurrection de Christ, c'est cette même puissance que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions vivre dans la piété, pour que nous puissions nous conformer à Christ. Alors quand Pierre dit que sa divine puissance nous a donné tout, absolument tout ce dont nous avons besoin pour ressembler à Christ, sincèrement, il aurait pu s'arrêter là. Rien que cette phrase-là, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Pierre, il aurait pu s'arrêter là et on avait suffisamment déjà d'informations pour comprendre nous-mêmes que nous n'avons pas d'excuses pour ne pas poursuivre une progression spirituelle. Nous n'avons pas d'excuses pour dire, mais je n'arriverai pas à ressembler à Christ. Non. La puissance de Dieu à travers Christ agit dans la vie du croyant. Et nous avons absolument tout ce qu'il faut pour lui être fidèle, pour être fidèle à cet appel de maturité spirituelle, de croissance. Nous n'avons pas d'excuses. Comprenons bien que Dieu ne nous a pas rachetés nous a pas accordé sa grâce et la rédemption pour nous dire ensuite, ben maintenant débrouillez-vous. Hein, c'est comme, ça nous paraîtrait complètement absurde et inconcevable que ben, des parents mettent au monde un bébé et on dise au bébé, ben maintenant débrouille-toi. Dieu est un bon père. Et il a contribué par sa divine puissance tout ce dont nous avons besoin pour notre vie en Christ et pour la piété. Pierre affirme que cette divine puissance de Christ, oui, elle contribue à cette vie et à cette piété. Hein, la vie, Zoé, hein, désigne cette vie nouvelle en Christ qui appartient à ceux qui ont placé leur foi en lui. Et ce terme de piété, hein, dans le grec, c'est eusébia, et c'est un terme qui met l'accent vraiment sur l'aspect pratique des choses, plutôt que même dans son aspect spirituel. C'est-à-dire que Dieu exige de chacun de ses enfants une conduite qui soit pieuse, une conduite eh bien, qui lui ressemble, une conduite qui l'honore. Et donc cette vie en Christ, lorsque nous voyons que cette vie et cette piété hein, que nous avons grâce à Christ, cette puissance que Dieu nous a accordée en Christ pour avoir cette vie, pour pouvoir vivre dans la piété, ce n'est pas quelque chose qui est restreint. C'est vraiment l'idée, il y a la vie et il y a la croissance maintenant. Il y a la vie et il y a la conduite. Hein, il y a la vie et maintenant, il faut s'aligner à la vie de Christ. Alors ce que Pierre nous dit, c'est que nous pouvons et nous devons même être assurés, convaincus, eh bien que Dieu nous a absolument tout offert, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui est nécessaire pour mener une vie à l'exemple de Christ. Cette abondante ressource vient de la puissance de Christ, et c'est ce qui nous permet de répondre à cette vocation hein, sainte que nous voyons dans les Écritures, d'être des imitateurs de Christ. Alors pourquoi ? Pourquoi beaucoup de chrétiens eh bien, ne parviennent pas à progresser ? En sachant que bah, cette puissance, elle est là. C'est une puissance qui est abondante, c'est une puissance qui est pérenne, qui est inépuisable. Pourquoi ? Il y a une certaine faillite spirituelle parmi certains chrétiens. Parce que oui, certains chrétiens, ils croient que Dieu a eu assez de grâce et même assez de puissance pour les pardonner, pour les justifier, les sauver, mais peut-être pas assez de puissance pour pouvoir les transformer, de les sanctifier, de les aider à rejeter le péché. Beaucoup de chrétiens ont même du mal à croire que rien ne manque au processus de sanctification. Ils s'imaginent qu'il doit y avoir quelque chose de plus hein, qu'ils doivent recevoir. Et la raison c'est de cette façon de penser, de concevoir les choses, eh bien, c'est ils échouent. Ils échouent dans leurs efforts à être comme Christ. Pourquoi ? Parce qu'ils s'appuient sur leur propre force et ils ne puissent pas dans la puissance que Dieu met à leur disposition. Et alors, si à la lecture de ce passage, ils ne croient toujours pas dans cette grâce de Dieu, alors il y a un problème de foi. Et là, il y a une incompréhension. Comment est-ce qu'on peut avoir assez de foi pour croire que Dieu nous a sauvés, mais pas assez de foi pour croire que Dieu peut nous changer ? Que Dieu a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est un problème de foi. Et comme j'ai déjà expliqué maintes fois hein, ici, la foi contient toujours ces trois aspects. Hein, celui de croire, beaucoup de gens croient, mais il y a aussi l'aspect de confiance. La confiance que ben, Dieu va agir comme il a dit qu'il va agir. Mais il y a aussi un aspect final qui est extrêmement important, c'est celui de l'obéissance. Et la foi contient ces trois aspects-là. Je crois ce que Dieu me dit dans sa parole au sujet que ben, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je crois ce que Dieu il me dit que ben, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Qu'il n'y a qu'un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, c'est Jésus-Christ. Que c'est par la foi hein, que c'est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Ça, je le crois. Mais je dois aussi faire confiance que Dieu va agir selon ce qu'il a promis. Mais il y a l'aspect obéissance qui fait que ben, si je crois tout ce que la Bible dit, eh bien, je suis pécheur, je suis perdu, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et l'obéissance, ça va être ben, ce que Christ a prêché, c'est repentez-vous. Repentez-vous hein, pour le salut de vos âmes. C'est ce que les apôtres ont prêché, c'est ce que nous continuons de prêcher. C'est qu'il y a besoin d'une obéissance à ce que Dieu veut pour nous. Et donc la foi qui est là pour notre salut, ça doit être cette même foi qui est là pour notre vie chrétienne également. Je crois ce que Dieu me dit, sa divine puissance. J'ai confiance qu'il a pourvu. Maintenant, je dois aussi obéir à ce qu'il me demande. D'autres chrétiens, parce qu'ils ont suivi malheureusement de mauvais enseignements, sont même persuadés que ils ont reçu suffisamment de grâce pour leur justification, hein, leur salut, mais pour leur sanctification également. Mais c'est tout l'aspect de bah, d'être vraiment transformé à l'image de Christ. Et de ce fait, beaucoup, malheureusement, croient qu'il est possible de perdre son salut. Et ça, c'est quelque chose que je ne vois pas dans les Écritures. Déjà, pour des raisons, on va dire, logique par rapport aux informations qui nous sont données dans les Écritures, c'est que, un, Dieu en Christ accorde la vie éternelle. Hein, mes petits enfants, je vous écris ces choses à vous qui avez la vie éternelle. C'est pas vous qui, peut-être, aurez la vie éternelle si vous continuez à œuvrer. C'est pas ça qu'il dit. Vie éternelle, ça veut dire vie éternelle. Ça veut pas dire vie qui, ah, ben maintenant ça s'arrête parce que tu as péché de nouveau. Non, éternelle, il y a une constance. Et puis, pour la même raison que, comme Paul nous l'enseigne, que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce. Et donc, si notre salut ne dépend pas de nos œuvres, mais de la grâce de Dieu, bah, le maintien, la sécurité éternelle du croyant dans son salut ne dépend pas aussi de nos mauvaises œuvres. Hein, il n'y a pas de bonnes œuvres pour obtenir le salut, il n'y a pas de mauvaises œuvres pour perdre le salut. Mais bon, ça ferait l'objet d'une toute autre prédication. Mais voilà, certains pensent que, à cause de leur situation, eh bien, Dieu ne les aide pas, ne les aide pas suffisamment. Hein, ils croient peut-être à la doctrine du salut, à la sécurité éternelle, etc. Mais certains pensent que ben, Dieu n'aide pas assez. Et ils pensent là parce qu'ils échouent. Ils pensent là parce qu'ils voient leurs limites. Ils pensent là parce qu'il leur arrive de chuter. Et donc face aux tentations, aux épreuves et aux tourmentes, ils estiment ben, « Dieu ne m'aide pas ». Et ils finissent par devenir inutiles dans l'œuvre de Dieu. Certains finissent par perdre leur temps parce qu'ils attendent, ils cherchent des moyens par lesquels peut-être qu'ils recevraient une révélation spéciale, mystique, d'avoir une transformation spirituelle mystérieuse, hein, extatique, qui est censée faire d'eux de super chrétiens comme ça. Mais le problème, c'est que ça ne correspond pas à ce que Pierre nous dit ici. Pierre nous dit, la puissance divine nous a donné tout. C'est un petit mot. Un petit mot ici, mais qui a son importance. Tout ce dont on a besoin nous a été gracieusement accordé par la puissance de Christ. Alors, on peut peut-être essayer de faire plus absolu que le mot tout. On peut peut-être même faire des hyperboles comme l'apôtre Paul en fait dans Colossiens 2:8. Hein, où justement, hein, il parle du fait que, eh bien, en Christ, hein, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il dit aussi, vous avez tout pleinement en lui, tout pleinement. C'est-à-dire que il en rajoute. C'est comme si tout ça ne suffisait pas. Il disait, il ajoute, c'est-à-dire pleinement. Il n'y a aucune raison pour nous de croire autrement que Dieu a vraiment accordé toute sa puissance divine pour que nous ayons une vie chrétienne victorieuse. Cette puissance divine qui nous a donné cette vie spirituelle en Christ, c'est la même qui, dans sa plénitude, nous aide à nous conformer. Parce que ce n'est pas de ma puissance dont il s'agit, c'est celle de Dieu. Et donc, mes limites, s'efface face à la toute-puissance de Dieu, n'est-ce pas? Malgré tout ce que Dieu révèle dans sa parole, le fait est que malheureusement, nombreux chrétiens se limitent, stagnent, et je crois que certains même ne veulent même pas progresser. Soit parce qu'ils ont cette mauvaise compréhension de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, soit parce que, voilà, ils ont un cœur qui est encore rebelle à Dieu. Christ nous dit, par l'apôtre Paul, qu'il peut faire, par la puissance qui agit en eux, infiniment au-delà de tout ce qu'on demande, tout ce que l'on pense, Dieu peut faire bien plus que cela, infiniment au-delà de cela. Donc l'une ou l'autre de ces situations de faillite spirituelle place ces chrétiens dans une situation qui est spirituellement fragile. Et c'est pour ça que Pierre en parle ici. Rappelez-vous que l'objectif de cette épître, notamment, eh bien, c'est de prévenir face aux faux enseignants, face à ces fausses doctrines, et que par cela, chercher à éviter que des chrétiens se détournent de la vérité et finissent par ne plus être à l'œuvre pour le Seigneur. Mais voilà, l'une ou l'autre de ces situations, il y a une faillite spirituelle qui place le chrétien dans une situation de fragilité. Alors comment rectifier cela? Comment employer cette puissance et atteindre, poursuivre cette piété? Voilà, ça c'est la deuxième chose que nous voyons dans ce passage. C'est que Dieu, il a déjà clairement tout établi, le protocole qu'il nous faut suivre. Dieu a clairement établi le protocole à suivre pour chacun d'entre nous en ce qui concerne notre croissance spirituelle. Alors comment est-ce que cette transformation, cette croissance se produit, s'opère dans la vie du croyant? Eh bien, Pierre, d'emblée, il nous dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Une connaissance personnelle et une connaissance continuelle de Dieu. C'est ce que Pierre, ici, apporte comme premier élément qu'il nous faut. Pierre emploie ici, pour parler de la connaissance, le mot grec « épignosis » qui désigne une connaissance qui est pleine, une connaissance qui est intime, qui est profonde. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance qui exprime une participation plus profonde dans une relation. Et dans le Nouveau Testament, ce mot fait souvent référence à cette connaissance qui va influencer de manière profonde la vie spirituelle des croyants. C'est une connaissance qui est profonde et non pas superficielle. C'est une connaissance qui est authentique, qui est réelle, qui est rendue possible par le salut en Jésus-Christ. Et Pierre, il explique que le fait que nous soyons appelés à nous conformer à l'image de Christ, ça va pouvoir se faire en recherchant une connaissance plus profonde de qui il est. C'est logique, n'est-ce pas? On ne peut pas espérer devenir comme Christ si nous ignorons qui est Christ. On ne peut pas espérer atteindre cette piété et ressembler à l'excellence morale de Christ si nous ne prenons pas connaissance de qui il est, de qui nous sommes vis-à-vis de lui et de tout ce qu'il a accompli pour nous. Et c'est pour ça que de nombreux croyants, malheureusement, limitent leur connaissance de Dieu et se retrouvent dans cette situation de fragilité, se retrouvent dans cette situation d'échec spirituel, cette situation de doute, parce qu'ils ne comprennent pas. Sa divine puissance, elle est là, je le crois. Mais qu'est-ce qui manque? Une connaissance bien plus profonde et bien plus intime de Christ. Et beaucoup disent, moi je connais le Seigneur, et ils parlent de ce moment où ils se sont convertis. Mais ce n'est pas une connaissance qui est profonde. Certains ont une connaissance intellectuelle, ils connaissent toutes sortes de faits au sujet de Christ, ils connaissent sa vie, ils connaissent ces choses-là, mais ce n'est pas une connaissance intime de Christ. Et Pierre nous dit que, donc c'est par le moyen de la connaissance de Christ, de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, eh bien que nous pouvons eh bien bénéficier déjà de cette puissance et que nous pouvons transformer notre vie à l'image de Christ, parce qu'il y a la puissance et il y a la connaissance profonde de Christ. Donc cette capacité à mener une vie empreinte de sainteté, de piété, résulte de la connaissance de celui qui nous a appelés, hein, et par la puissance dont il nous fait bénéficier. Hein, dans Jean chapitre 17 et verset 3, on sait que le début de cette connaissance, c'est lié au salut. Il dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc il y a ce lien entre, oui, notre salut et la connaissance, mais une connaissance personnelle, une connaissance intime de qui est Christ. Et en connaissant Jésus, eh bien nous sommes appelés, donc, par sa propre gloire et par sa vertu. Et c'est ici, c'est ce qui vraiment souligne l'action de Christ lorsqu'il nous appelle à la vie, à la piété. Eh bien, notre appel, c'est ce que Pierre veut vraiment souligner ici. Notre appel à quoi ? Oh, nous avons été appelés à la vie éternelle, merci Seigneur, mais nous avons été aussi appelés à la piété. Les deux vont de pair. On ne peut pas juste dire, oui, je veux bien de la vie éternelle, mais je ne veux pas de la piété. Et on ne peut pas dire, oh, mais moi, je suis une personne pieuse, sans avoir reçu la vie éternelle de Christ. Nous avons été appelés à plusieurs reprises dans les Écritures à toutes sortes de choses. Nous avons été appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous avons été appelés à suivre Christ, même dans le chemin qu'il a souffert. Nous avons été appelés à bénir ceux qui nous maudissent. Nous sommes appelés, par sa propre gloire et par sa vertu, eh bien, à employer cette puissance qu'il a mis à notre disposition pour vivre dans la piété. Et donc Christ nous a, oui, appelés à cette excellence spirituelle, et il l'a fait par sa gloire et sa vertu. L'apôtre Paul, avant sa conversion, Saul de Tarse, lorsqu'il est en chemin sur la route de Damas et qu'il voit la gloire du Seigneur Jésus-Christ, le texte, son témoignage nous dit, il tombe à genoux, il est là, mais « Seigneur, qui es-tu ? Qui es-tu ?» Et quand Christ se révèle à lui, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Tout de suite, il y a un changement qui est produit dans la vie de Saul de Tarse, ce même changement qui est produit dans la vie de tous ceux qui croient en Jésus-Christ par la foi, eh bien, il y a ce changement qui se produit, mais automatiquement, comme Paul, nous devrions avoir cette attitude et cette question, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Mais ici, bon, Paul, il a fait face à cette gloire de Christ, cette gloire qui était visible, cette lumière intense. Et dans le contexte ici du mot gloire dans notre passage de Pierre, eh bien, cela fait référence à sa splendeur, à sa majesté. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu. Ce n'est pas la gloire, la renommée qu'il avait parce qu'il a touché la vie de tellement de personnes, il a fait du bien autour de lui, etc. Non, il s'agit de sa gloire en tant que Dieu. Et le mot vertu, oui, c'est ce qui renvoie à cette excellence morale de Christ. Tout ce que nous voyons dans la vie de Christ, qui nous inspire, sa compassion, son amour, sa grâce, sa miséricorde, sa justice, sa sainteté, mais également aussi sa soumission au Père. Tout ce que nous voyons de Christ dans les Écritures, son excellence morale, eh bien, c'est ce que ce mot « vertu contient. Donc ensemble, ces deux mots, la gloire et la vertu, décrivent l'excellence de Christ. L'excellence qui est notre modèle, l'excellence qui doit être notre objectif. Nous pouvons véritablement vivre cette vie authentique, une vie pieuse, en connaissant Christ, non pas intellectuellement, mais au plus profond, justement, de notre âme. Et alors, lorsque nous comprenons cela, lorsque nous savons que cette puissance est à notre disposition, et que pour que nous puissions progresser dans la piété, il nous faut avoir une connaissance plus profonde de Christ, eh bien là, nous allons pouvoir commencer à progresser spirituellement. Là, eh bien, comme Paul le dit, nous allons pouvoir être transformés à son image, de gloire en gloire. Et tout au long de notre vie ici-bas, tout au long de notre cheminement spirituel avec le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'objectif de votre vie, de ma vie, doit être de ressembler à Christ. Ça doit être cet objectif-là. Parce qu'on ne peut pas juste, oui, accepter la grâce, la vie, et rejeter la raison de cette vie et l'objectif de cette vie. Cette connaissance de Christ, oui, elle est liée à la parole, cette parole qui nous dévoile qui il est, hein, qui nous dévoile son évangile, qui nous dévoile tout ce qu'il a prévu pour les chrétiens, tout ce qu'il a prévu pour son Église. Et quand on agit par la connaissance que nous avons de Christ à travers sa parole et que nous mettions en pratique sa parole, eh bien c'est là où nous commençons, oui, à progresser, c'est là où nous sommes en communion avec lui, c'est là où la sanctification va pouvoir se faire dans notre vie. Hein, quelque part, c'est ça l'idée de mettre en œuvre notre salut, c'est-à-dire que ce que nous avons reçu, nous l'employons. C'est pas juste un trésor qu'on garde caché au fond de notre poche, c'est un trésor qui a été accordé pour être employé. L'apôtre Paul nous rappelle que dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 9, il nous rappelle que c'est en Christ que nous avons été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Et le témoignage de Christ, il dit, « Ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, hein, les dons que Dieu accorde par l'Esprit pour que nous puissions servir le Seigneur, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est-à-dire que cette piété que nous devons poursuivre, elle ne peut pas se faire sans le salut, sans la connaissance de Christ et sans l'application de la volonté de Christ dans notre vie. Et là, nous serons en communion avec le Seigneur, et là, nous allons progresser dans la piété. Et comme si tout cela, ça ne suffisait pas pour nous encourager à vivre ainsi, même Pierre nous rappelle une troisième chose, et comme le temps il a déjà filé, on va essayer d'aller un peu plus rapidement, mais l'objectif final de Dieu pour nous, ça nous surpasse, n'est-ce pas ? Il dit au verset 4, « Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Regardez l'objectif. « Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Si, dès notre conversion à Christ, nous commençons à expérimenter sa grâce envers nous et son aide pour vivre une vie qui l'honore, c'est pas tout ce que il a en réserve pour nous. Nous avons l'assurance, nous avons la garantie, rien ne peut empêcher que ces plus grandes et ces plus précieuses promesses qu'il a prévues pour nous, rien ne peut empêcher que cela s'accomplisse. Eh bien, cette assurance parfaite de l'accomplissement de ces promesses, c'est ce que Dieu il veut que nous prenions soin de comprendre et d'attendre. On a l'assurance qu'en fin de compte, nous allons lui ressembler. On sait que, immanquablement, l'aboutissement de notre salut en Christ, c'est ce qu'on appelle la glorification en théologie, c'est ce moment où nous sommes entièrement et finalement transformés à l'image de Christ, entièrement et finalement débarrassés du péché qui a corrompu notre vie, débarrassés de toutes ces choses-là, transformés à son image. Et le verbe ici, dans le grec, le verbe « assurer », le temps que Pierre il emploie ici, décrit une action qui est passée, mais qui comporte encore des effets qui se poursuivent, qui continuent. Et donc, les croyants en Christ, ils héritent, oui, de grandes et de précieuses promesses, Et ces promesses de Dieu, hein, par l'évangile, sont déjà extraordinaires. Nous avons la vie éternelle, nous sommes assurés de cela. Nous savons que si nous mourons, nous serons ressuscités. Nous avons reçu l'Esprit Saint, nous recevons une grâce abondante. Il nous accorde la joie, la paix, la force. Il nous accorde aussi la direction dans notre vie, de l'aide spirituelle, l'instruction par sa parole, la sagesse aussi qui vient de sa parole. Et toute une panoplie de récompenses éternelles, de couronnes, que Christ remettra à ses disciples. Mais là, nous avons peut-être la plus intrigante de ces promesses, que vous deveniez participants de la nature divine. Qu'est-ce que c'est que cela ? Hein, le verbe « devenir » ici n'est pas qu'une simple possibilité future, mais une certitude actuelle. C'est-à-dire que par cette vocation de Dieu, eh bien, pour les croyants, on a reçu, encore une fois, par sa puissance divine, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, mais aussi à l'accomplissement de ses promesses inestimables. Et c'est sur cette base-là que Pierre vient de présenter ce que les croyants deviennent dès à présent déjà des participants à la nature divine. 2 Corinthiens 5, 17, n'est-ce pas ? Nous sommes de nouvelles créations. De nouvelles créations. C'est-à-dire que le point de départ, notre salut en Jésus-Christ, eh bien, nous sommes déjà à ce moment-là participants de la nature divine, mais ça, ça va se compléter et s'achever au moment où nous serons dans la présence de Dieu. C'est la promesse que nous avons. Hein, Jean chapitre 1, versets 12 et 13 nous rappelle qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui accomplit ça pour nous. C'est Dieu qui fait de nous ses enfants. Et le terme ici que Pierre il emploie, hein, comme pour participant, hein, parfois on peut, c'est le terme koinonios, c'est un terme qui est aussi traduit par communion, hein, une sorte de partage, de partenariat. Eh bien, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais attention, Pierre ne suggérait pas que les chrétiens deviendraient des dieux, comme certaines sectes le croient, ni même qui seraient absorbés par la divinité. Ce que Pierre veut nous dire ici, c'est que nous allons finalement être moralement parfaits en participant à la perfection morale de Dieu. Il parle de cette union réelle avec Christ, hein, qui commence, oui, à notre conversion, mais qui sera pleinement réalisé, hein, soit à son retour, ou lorsque nous mourrons et nous allons dans sa présence. Et c'est également ce que l'apôtre Jean a exprimé dans sa première épître au chapitre 3 et verset 2, hein, lorsqu'il a dit « Bien-aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes déjà participants de la nature divine. » Mais il dit « Nous sommes maintenant des enfants de Dieu et c'est ce que nous serons, et ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ce dont Pierre fait référence ici, c'est ce qu'il va en parler un peu plus tard dans ce chapitre 1, mais aussi au chapitre 3, lorsqu'il va aborder la question du retour de Christ. Pierre, ici, nous indique que on a toute la puissance, mais aussi toutes les raisons de vouloir poursuivre et de pouvoir poursuivre la piété dans notre vie. Parce que le salut en Christ, c'est ce que Dieu a prévu pour nous, que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Ce qu'il a prévu pour nous, c'est que nous devenions, eh bien, participants de sa nature divine. La vie éternelle, la sainteté. Nous ne deviendrons pas Dieu, parce que Dieu, eh bien, par essence, il est éternel, infini, il n'a pas de commencement, pas de fin. Nous en avons une, n'est-ce pas ? Nous avons un commencement. Mais ce qu'il nous dit, c'est que nous aurons une connaissance parfaite de Dieu, nous aurons une connaissance parfaite du bien, nous aurons une connaissance parfaite de la sainteté, parce que Dieu aura achevé son œuvre en nous le jour où nous serons dans la présence du Seigneur. Et donc là, c'est ce qui nous encourage à continuer. Parce que c'est cette liberté ultime que chaque être humain, je pense, je le crois, aimerait être débarrassé de tous les effets du péché, n'est-ce pas? Et il nous dit que nous devenions, hein, participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Parce que justement, en opposition à cette glorification, à ce moment où, eh bien, notre sanctification, elle est complétée et nous sommes rendus à l'image de Christ, eh bien, nous sommes libérés de cette corruption qui existe dans le monde actuellement. Nous sommes libérés, hein, de ce monde de convoitise. Et ceux donc qui ont part à la vie éternelle, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, ben, échappent complètement à cette corruption, à ce monde de convoitise. Hein, le mot corruption ici, c'est un mot qui est fort. Hein, c'est un mot qui désigne la décomposition, hein, d'un cadavre. C'est cette idée de quelque chose qui est pourri, de cette puanteur qui accompagne une telle décomposition. Et Pierre nous dit que, voilà, nous allons être transformés à l'image de Christ, et nous ne serons plus, hein, de ce monde corrompu, nous ne serons plus dans ce monde qui est dominé par le péché, nous n'aurons plus les conséquences du péché dans notre vie. Et lorsque les croyants seront glorifiés, eh bien leur salut sera achevé, complété, hein, parce que l'objectif de Dieu, et ça je l'ai déjà partagé plusieurs fois, c'est que dans Genèse, dans le livre de la Genèse, Dieu déclare: faisons l'homme à notre image. Le plan de Dieu dans la création de l'être humain, ça a été de créer un être qui lui ressemble, par rapport à qui il est dans sa sainteté, à par rapport à qui il est dans son amour. Okay? Le péché a corrompu tout cela. Hein, l'homme et la femme ont suivi le diable, ont désobéi à Dieu, et depuis ce jour-là, hein, chaque être humain, nous subissons les conséquences de cette désobéissance-là. Mais le plan initial de Dieu, de nous créer à son image, n'a pas changé. Et les Écritures nous disent même que Dieu, hein, même avant la fondation du monde, nous a prédestinés à être comme Christ, à être à son image. En ce moment, nous voyons cette corruption dans le monde. Nous voyons même notre propre corps, hein, qui vieillissent, hein, et qui subissent cette corruption. Mais là, ce sera un acte complet et définitif. Que Dieu nous extirpera de ce monde de corruption, nous transformera à l'image de Christ. Et c'est un moment que on attend avec impatience, n'est-ce pas? On attend avec impatience d'être dans cette présence du Seigneur, parce que comme Paul l'a dit, hein, nous gémissons dans cette tente, aspirant à revêtir à notre demeure céleste. Il voulait être auprès du Seigneur. Mais comprenez aussi que bon, il avait une œuvre à accomplir ici pour le Seigneur, tout comme nous avons une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Nous avons une mission confiée par le Seigneur de partager l'Évangile avec le plus grand nombre pour que le plus grand nombre puisse connaître cette grâce, connaître cette puissance et connaître, eh bien, l'abolition du péché et de toutes ses conséquences, de la corruption, etc. Et ce jour merveilleux où nous serons dans la présence du Seigneur, il essuiera toutes nos larmes, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Parce que comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, les premières choses auront disparu. Ça sera fini. Donc le plan de Dieu, que l'être humain soit à son image, oui, le péché a corrompu cela, mais Dieu avait prévu aussi que par Christ, nous puissions recevoir sa grâce. La grâce d'avoir nos péchés pardonnés, la grâce de pouvoir être transformés, d'être de nouvelles créations, la grâce de pouvoir accomplir ici-bas des œuvres spirituelles qui honorent Dieu. Et tout cela, c'est sa divine puissance qui nous le permet. C'est sa divine puissance qui régénère, c'est sa divine puissance qui sanctifie, et c'est sa divine puissance aussi qui glorifiera les croyants une fois au ciel. Alors oui, comme Jean, nous pouvons prier. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Ah oui, il fait nul doute que les lecteurs de Pierre possédaient une connaissance intime de Dieu en Christ et qu'ils avaient reçu de nombreux enseignements à son sujet au cours de leur vie chrétienne. Mais Pierre leur dit, rappelez-vous de ces choses-là. Rappelez-vous, parce que il y a des personnes qui veulent vous détourner de ça. Il y a des personnes qui veulent vous faire douter de votre salut, de votre foi. Il y a un adversaire qui est réel et qui agit, qui cherche à faire chuter les chrétiens, à les rendre inefficaces, inutiles dans l'œuvre du Seigneur. Et Pierre nous dit, comme il le conclut à la fin de son épître, tenez ferme et croissez. Continuez de grandir. Parce que c'est en continuant de grandir qu'on va pouvoir discerner le vrai du faux, discerner, voir les attaques, et de pouvoir défendre à la lumière des Écritures, parce que c'est ce que Christ lui-même a fait, lorsque l'adversaire s'en est pris à lui, il est écrit. Notre ressource ici, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous devons faire nos efforts pour connaître la parole de Dieu, comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, et la mettre en pratique. Et dans les versets suivants, les versets 5 à 7, Pierre, il va un peu développer ce que nous devons faire. Verset 5, et je m'avance un peu, mais à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est-à-dire que, déjà là, cette puissance que nous avons, elle implique que nous l'utilisions. Mais ça implique aussi de notre part de faire un effort. C'est un peu ce déclic initial que nous devons mettre en route pour que cette puissance nous aide à accomplir et à continuer dans ce sens-là. Prions.